pas vous voir un peu plus, qui vous donne les coordonnées de quelqu'un. Parce que vous avez un grand besoin de parler, il faut démêler ça et sortir de cette culpabilité, même si c'est une façon de lutter contre l'impuissance. C'est ce que dit Bambi. Vous avez fait au mieux, François. Son refus de soins vous a isolé, vous avez été obligé d'investir un rôle de soignant que vous n'êtes pas. Et puis Christophe dit, la souffrance peut engendrer de l'agressivité et un repli sur soi. Donc Brigitte vous dit, ne rajoutez pas à ce qui est déjà très difficile une culpabilité malvenue. Mais je pense vraiment qu'il faut que vous en parliez. Je suis vraiment de tout cœur avec vous, je vous envoie toute ma compassion. Prenez soin de vous et parlez-en comme vous l'avez fait avec moi, ce psychologue, à l'hôpital.
Oui.
Bon courage, François.
D'accord, et merci. Merci, ça... Ça me fait du bien.
Mais oui, je crois que vous avez un grand, grand besoin de parler. Bon courage à vous. RTL. RTL, il est minuit. 24 heures d'info avec Rémi Jacob.
210 000 manifestants ce jeudi 1er mai dans les rues de France selon la CGT, 121 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est moins que l'année dernière en pleine réforme des retraites. Une journée marquée notamment par cette séquence forte, celle de Raphaël Glucksmann empêché de rejoindre le cortège à Saint-Étienne. Une cinquantaine de personnes l'ont prise à partie avec notamment des slogans pro-palestiniens. De son côté, le Rassemblement National était en ordre de bataille à Montpellier avec un grand meeting au cours duquel Jordan Bardella a tenté de garder ses troupes mobilisées et cela à seulement un mois des élections européennes. Le Rassemblement National qui est actuellement largement en tête avec 31% d'intention de vote selon le dernier sondage Toluna Harris Interactive pour RTL, loin devant la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Ayer, créditée de 16% d'intention de vote. Et notez que le tout premier débat entre les 7 têtes de liste dont le parti qui est déjà présent au Parlement européen, aura lieu sur RTL. Ça sera ce dimanche dès midi, à retrouver en simultané sur Paris Première. En football, la déception pour le Paris Saint-Germain qui s'est incliné ce mercredi soir 1-0 sur la pelouse de Dortmund lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Match retour prévu mardi prochain au Parc des Princes et puis en demi-finale de la Ligue Europe cette fois-ci. L'Olympique de Marseille affrontera ce jeudi l'Atalanta. La France désignée pour la 5e année consécutive pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. C'est ce qui ressort du baromètre publié par le cabinet EY. Près de 1200 projets d'investissement ont été enregistrés dans l'Hexagone en 2023. La France qui arrive devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. En déplacement en Israël ce mercredi, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken s'est montré décidé à arracher une trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Le diplomate a estimé que si le Hamas rejetait cette offre de trêve, cela montrerait alors, je cite, son peu de considération pour les Palestiniens. Dans le même temps, il s'est également fermement opposé à l'offensive qu'entend mener Israël sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, où sont actuellement massés 1,5 million de Palestiniens. La météo avec de violents orages qui touchent depuis quelques heures une quinzaine de départements situés entre la Bourgogne, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Ce jeudi, la perturbation concernera encore une grande moitié est du pays, avec des pluies plus marquées dans le sud et parfois orageuses sur le nord-est et en Corse. Du côté des températures, comptez 12 à Besançon, 14 à Paris, Marseille et Reims, 15 à Toulouse et 19 à Bastia et Strasbourg. Et puis les courses, elles auront lieu ce jeudi en nocturne à Chantilly. Départ 20h15, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 9, l'As, le 7, le 15, le 13, le 16 et le 10. L'outsider de RTL, c'est le 15, Joli Prince.
RTL, 24 heures d'info. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Nous sommes à vos côtés en direct jusqu'à minuit et demi. Donc, si vous désirez me parler, si vous en éprouvez le besoin, comme François, à l'instant à qui on pense, et des moments évidemment très, très dur, très rude. Et, ben, on est là, on est à vos côtés. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil pour partager des moments douloureux, difficiles, ou des moments de joie aussi. Parlons-nous, c'est tout ça, c'est votre vie. 09 69 39 10 11, vos réactions également par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Beaucoup de messages aussi de soutien, de réconfort qui sont arrivés pour François qui tourne en boucle dans sa tête ces 15 derniers jours si éprouvants qu'il a vécu avec sa compagne. Il y a Ruben qui dit, vous savez, face à l'insupportable, sans vouloir se dire qu'on aurait pu faire plus, qu'on aurait dû faire mieux, ça revient aussi à ne pas accepter l'inacceptable, c'est chercher du sens là où il n'y en a pas. C'est ce que disait Brigitte aussi, elle dit, il n'y a sans doute rien à comprendre à cette agressivité, si ce n'est qu'elle était mal. Elle était très mal et il ne faut pas le prendre personnellement et cette culpabilité vous fait souffrir, mais cette culpabilité voilà, c'est aussi une façon en face de reprendre un peu prise sur les choses et qui nous échappent. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment d'être accompagné. François disait, il avait besoin de parler, parler lui a fait du bien et je crois que vraiment il faut se donner ce temps-là, ce temps d'accompagnement.
J'ai laissé dans une mandarine doucement. Je suis né dans le gris par accident. Tout mon cœur est resté là-bas.
Toujours autant de plaisir à écouter Laurent Voulzy sur RTL et cette chanson douce et sucrée, Le cœur grenadine.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Madame Dublanche.
Bonsoir, vous pouvez m'appeler Caroline.
Oui, alors bonsoir Caroline. Excusez-moi.
Oui, je vous entends bien. Oui, oui.
J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai quelques petits problèmes avec mon.
Ça s'entend mon téléphone pas. Portable. Non, vraiment. Oui, oui. Paul m'avait dit, mais non, là, vous m'entendez, vous?
Parfaitement.
Eh ben alors, c'est parfait. C'est parfait. Alors, comme il est minuit 12, si vous voulez avoir un peu le temps et que, voilà, l'émission se termine à minuit et demi, autant y aller directement, puisqu'on s'entend bien tous les deux.
Alors, pour y aller
au figuré et puis au propre.
Oui, d'accord. Alors, il se trouve que j'ai une liaison avec une femme qui est mariée.
Oui.
Et par rapport à laquelle j'ai parfois le sentiment qu'elle me prend, enfin qu'elle prend les choses avec un petit peu de mépris. Donc c'est un peu compliqué en fait.
Ah oui, vous vous sentez pas considéré dans cette relation, pas?
Si, je me sens considéré, mais je pense qu'elle est partagée entre. Je pense qu'elle aime deux personnes. Je pense qu'elle m'aime beaucoup et qu'elle aime aussi son mari.
Non, parce que je relevais, vous parlez de mépris, donc c'est pas rien. Si vous vous sentez méprisé.
Ben, j'entends par mépris le fait que parfois, j'aimerais avoir un petit peu plus d'attention de sa part.
Ah oui, d'accord, c'est que. Oui. Ça relève pas forcément,
allez.
D'accord. Vous êtes avec cette relation, elle dure depuis combien de temps?
Cette relation, elle dure depuis 3 ans.
Ah oui, ça commence à être long.
Oui.
Et vous voyez souvent?
On se voit de manière épisodique, à minima 15, tous les 15 jours.
Tous les 15 jours.
Oui.
Oui, je comprends que vous en ressentiez une certaine frustration parce que.
Sachant que les choses ont été clairement établies depuis le départ, elle m'a dit qu'elle ne quitterait pas ni son mari, ni sa famille, ce que je conçois.
Oui.
Mais par moments, je trouve qu'elle manque un petit peu de tact.
Dans ses paroles, dans ses attitudes?
Oui, parce que moi je suis seul et
oui.
Le fait est que j'aurais besoin éventuellement d'avoir un échange avec elle un petit peu plus
plus d'attention,
assidu, mais
plus régulier.
Plus régulier, oui, tout à fait. Mais
oui,
elle,
c'est peu tous les 15 jours. Hein.
Elle a sa vie de famille.
C'est ça.
Et je ne peux pas lui en faire le reproche dans la mesure où de toute façon les règles étaient établies au départ.
Oui, mais alors. Il y a ce que l'on dit, et au départ, ça peut évoluer, une relation. Et parfois, elle pouvait vouloir se fixer un cap, mais au fil du temps, et peut-être c'est ce que vous espériez, que les choses évoluent et qu'elle s'attache, et que vous voyez davantage, voire que Elles partent avec vous.
Je suis pas certain parce que le fait de se voir comme ça de manière périodique ménage l'intensité de la liaison quelque part.
Oui, vous avez raison. C'est quelque chose de. Il y a une routine. Paradoxalement, là, dans ce type de relation, mais elle, vous avez raison, elle ménage certainement en limitant vos rencontres, son couple et sa vie de famille.
En fait, mon paradoxe à moi, c'est que effectivement, le fait de ne pas se voir tous les jours et de ne pas entrer dans une routine, effectivement, je pense que c'est intéressant par rapport à une maison.
Mais il y a une forme de routine à se voir tous les 15 jours. Hein.
Non, mais je vous dis tous les 15 jours, mais c'est pas exactement ça. Hein,
oui, enfin, très peu, quoi.
Bon, en tout cas, l'effet de ne pas être corps à corps au jour le jour, quelque part, ça fait que quand on se retrouve, on est très très content de se retrouver. Le hic, c'est que quand on a. Enfin, quand moi j'ai besoin de parler, elle n'est pas forcément disponible.
Peut-être que c'est pas ce qu'elle recherche non plus, elle. Être à votre écoute. Là où vous, vous ressentez ce besoin. Mais peut-être qu'elle, elle vient chercher autre chose auprès de vous.
Mais moi, je suis extrêmement à l'écoute. De vivre énormément de choses, quoi.
Donc, oui, elle se confie beaucoup à vous.
Oui, j'ai l'impression d'être un petit peu... Oui, je l'écoute, quoi.
Son psy ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Non, je n'ai pas cette prétention-là. Non, je n'ai pas cette prétention-là.
Son confident.
Son confident, voilà. Oui. Quand elle a besoin de parler, à tous les coups, je suis là. Et
la réciproque n'est pas vraie ?
J'ai pas le sentiment.
Oui, ça compte ce que vous ressentez. C'est que vous ne trouvez pas auprès d'elle l'écoute dont vous auriez besoin.
Après, je ne la taxe pas d'être de mauvaise foi vis-à-vis de moi,
Non, mais ce n'est pas rien le mot que vous avez utilisé, même si après vous parlez de mépris, de mauvaise foi. Enfin, il y a un moment où on sent bien votre frustration dans cette relation. Et c'est pas 3 mois de relation, c'est 3 ans.
J'ai le sentiment qu'elle me délivre énormément d'informations que je reçois, plus ou moins loin, parce que parfois c'est assez maladroit de sa part. Mais et à partir du moment où moi je commence à me livrer, j'ai l'impression que ça Alors, c'est certainement un mauvais ressenti, mais
pourquoi
ça l'intéresse pas, quoi.
Non, mais Frédéric, pourquoi ça serait un mauvais ressenti ? Pourquoi vous dites ça ? Si c'est arrivé une fois, mais semble-t-il, c'est quelque chose qui vous pèse. C'est votre ressenti.
Oui.
Il compte. C'est qu'à un moment, vous ne vous sentez pas écouté.
Parce que très très rapidement, quand on a des échanges, donc c'est toujours des échanges sous cap du fait que ce soit une relation illégitime.
Oui, bien sûr.
Et quand je lui dis bon écoute, je vais te parler de moi un petit peu, ça dure 10 minutes, quoi. Et très vite, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas, quoi.
Vous lui avez dit.
Oui.
Et elle, quand elle vous parle d'elle, de son couple, de ses problèmes...
C'est interminable.
C'est interminable.
Et il se trouve que moi, ça m'intéresse. Enfin,
oui, c'est
quand
ça.
Quand elle me parle de son couple, de ses enfants...
Vous intéressez à elle, à tout d'elle, à sa vie, à ce qu'elle ressent.
Sincèrement, je m'intéresse à elle, bien sûr.
Oui, j'entends.
Mais je peux pas dire le contraire. Il peut y avoir des dossiers annexes qui m'intéressent pas. Et là, je lui dis, les dossiers annexes, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ton couple, tes enfants, dans la mesure où le...
Ce qu'elle ressent, enfin, vous êtes... vous intéressez à elle et vous ne trouvez chez elle cet intérêt-là pour vous, malheureusement, pas assez.
Mais je peux pas dire qu'elle soit inintéressée par ma personne.
Non, mais c'est un peu douloureux de vous dire de se dire aussi les choses comme ça. Donc j'entends que vous l'aménagez. Mais la sensibilité que vous avez, vous, pour elle, l'intérêt que vous lui portez, il y a quelque chose qui, chez elle, si on le disait un peu de façon triviale, elle prend plus qu'elle ne donne.
Mais je sais pas si vous voyez, Caroline, la manière dont ça se passe quand il se trouve que je suis divorcé, séparé de mon ex-épouse depuis 3 ans, je ne suis pas au contact ni de mes enfants ni de ma femme, donc je suis seul et elle est au contact de son mari, de ses enfants et tout ça. Donc forcément, elle a beaucoup plus de choses à me raconter que moi.
Enfin, non, je suis désolée. Vous avez aussi votre vie, ce que vous ressentez, la façon. Vous avez aussi une vie en dehors. Il y a aussi ce que vous vivez dans cette relation. Je reçois un message d'une auditrice prénommée Cathy qui dit est-ce qu'elle vous a dit ce que lui apportait votre relation, ce qu'elle y trouve, ce qu'elle recherche? Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? C'est
en
la
fait,
véritable
en
question.
Fait... En fait, ce qu'elle y trouve, elle, depuis le tout départ, c'est une parenthèse. C'est-à-dire que...
Elle utilise ce terme-là?
Oui, elle les utilise, et même c'est convenu entre nous. C'est acté quand elle...
D'accord, rien n'a bougé, rien n'a évolué, vous restez une parenthèse. Comment
mais
vous
ça,
le vivez,
ça, ça...
vous?
Ben ouais,
d'être en parenthèse aussi.
Que peut-être je perds mon temps.
En tout cas, ça parce engendre un peu une certaine douleur en ce moment. Depuis.
Le fait est que quand elle rentre dans la pièce, c'est le soleil. Hein, c'est magnifique.
On s'est parlé, non, déjà?
Pardon?
On ne s'est pas parlé.
Je crois pas, non.
Ah oui, parce que c'est rare d'entendre des hommes qui sont dans cette position d'amant. Et ça me fait penser à quelqu'un qui parlait comme ça, comme vous, avec beaucoup d'intensité. Mais bon, j'ai cru.
Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand elle met un pied dans la pièce, c'est le soleil.
Mais oui,
voilà,
mais oui.
Passe une nuit, deux nuits, trois nuits. Voilà, c'est le soleil. On partage. On a beaucoup de points communs.
Oui,
on aime beaucoup,
vous êtes très attachés.
Et le fait que je suis tout seul la plupart du temps, et quand tu mets un pied dans la pièce, c'est le soleil. Bon, après,
mais vous êtes très impliqué, vous très investi, et en même temps, ça vous limite beaucoup dans votre vie, parce que depuis 3 ans, vous attendez. Vous attendez en sachant qu'elle vous dit bien, et ça n'a pas évolué, cela aurait pu évoluer. Et quelque part, vous pouviez en avoir le secret espoir. Or là, vous êtes une parenthèse dans
alors
sa vie.
Alors que faire avec ça? Parce que moi, ça me fait énormément de bien quand elle est là.
Quand elle est là, mais le reste du temps
ben, ça me fait du chagrin. Et voilà. Effectivement, il m'arrive de me dire peut-être que si je me trouvais une compagne
disponible.
De manière un peu plus régulière, ce serait plus simple.
Et oui, c'est elle occupe tellement de place, même si elle est peu là. Quand elle est là, c'est le soleil. Elle met du soleil dans votre vie. Que le reste du temps, mais le reste du temps, quand elle s'en va.
Et ben le reste du temps, c'est la déprime.
Bon, c'est là où ça ne va pas.
Enfin, c'est la déprime. C'est
oui, enfin, elle est un tout, quoi. Quand elle est pas là.
Eh bien, c'est en ça qu'elle est importante.
Non, parce que vous vous rendez compte. Mais non, vous pouvez pas rester, Frédéric, juste dans cette attente d'elle, qui, au fil du temps, devient source de douleur. Parce qu'il n'y a aucune perspective d'évolution. C'est-à-dire que, comme vous le dites, elle a sa vie avec son mari, qui n'est peut-être pas, qui ne comble pas toutes ses attentes, sinon elle n'aurait pas cette relation avec vous, mais elle ne veut rien changer. Elle est comblée. Elle est comblée, en fait, vous lui apportez ce qu'elle ne trouve pas dans son couple, mais à côté de ça, elle a la stabilité. Vous, quand elle n'est plus là, c'est le plein et le vide. Et vous, vous ne construisez rien, vous n'avancez pas et vous stagnez.
Vu de ma fenêtre, j'ai l'impression que en fait, entre son mari qu'elle aime beaucoup, elle s'en est jamais cachée. Et moi, voilà, ça fait
un équilibre
en ce qui la concerne.
C'est elle. Ça. Oui, mais
c'est comme un film,
ce qui la concerne elle, c'est une chose, mais c'est vous qui m'appelez et c'est vous qui dans cette relation. Enfin, on comprend que pour vous, ça soit dur à vivre. Parce que quand elle est là, c'est lumineux, c'est formidable.
Ah oui,
et d'ailleurs, entre nous, Frédéric, son mari n'a peut-être pas la même, ne parlerait pas d'elle de la même façon. C'est d'autant plus lumineux, d'autant plus le soleil, là, tout d'un coup, qui arrive, que vous la voyez peu. Parce que, vous savez, c'est plus simple d'idéaliser l'autre quand on ne partage pas son quotidien. Si elle partageait votre quotidien, parce que peut-être vous dites qu'est-ce que j'aimerais être à la place de son mari, elle serait peut-être moins fabuleuse.
Alors,
donc, cette relation-là... Pardon ?
Excusez-moi, en l'occurrence, je ne souhaite pas être à la place de
vous
son mari.
Vous ne souhaitez pas. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez alors, vous ?
Moi, ce que je souhaite, c'est avoir une liaison avec cette personne. Mais
vous l'avez.
Sans avoir ce sentiment de délaissement par moment.
Mais parce qu'elle veut, elle vous donne que ce qu'elle veut bien vous donner. C'est-à-dire que votre place, et c'est normal que votre place, elle est réduite juste à ce qu'elle peut vous donner. Et elle ne vous donne pas plus. Et elle a bien cadré. Elle, dans sa tête, c'est... Vous, ça vous plonge dans... Je pense qu'elle sait très bien jouer avec votre désir, malheureusement. Parce que cette relation-là, et c'est pour ça qu'elle dure aussi, elle vous maintient dans le désir. Parce qu'elle est plus souvent absente que présente. Et ça...
Ah, ce que vous êtes en train de me dire, c'est, ça me fait un électrochoc. Hein.
C'est-à-dire
que... Ça m'apparaît comme une évidence alors que je n'avais pas pensé jusque-là. Mais effectivement, ce que vous êtes en train de sous-entendre, je pense que c'est effectivement la vérité, quoi.
Je prétends pas dire la vérité, mais ça fait écho en vous, quelque chose.
Oui, ça veut dire que de sa part à elle, il y aurait une forme de vice.
C'est pas le mot du tout que j'ai utilisé. Mais je pense qu'elle sait très bien dans quel état vous vous trouvez et que, alors, ok, elle est claire, mais elle ne tient pas tellement compte de vous, de ce que vous ressentez, ou en tout cas très vite, elle dévie, parce qu'au fond, elle veut peut-être pas s'embarrasser de vos états d'âme. Elle vient chercher quelque chose... Et c'est là aussi, c'est la place qu'elle vous donne. C'est-à-dire pas seulement dans le temps qu'elle vous donne, mais dans la place que vous prenez pour elle. Et c'est là où il y a un déséquilibre important.
Je ne peux pas lui en faire le reproche, parce que depuis le départ,
c'est
on avait conclu un pacte pour que
c'est
ce
vrai.
Soit une liaison. Donc,
oui,
donc,
mais bien sûr, donc, mais bon, en même temps, c'est aussi une relation qui se joue il y a... De l'affectif aussi. Et
de liaison,
quand elle voit que vous êtes très en attente, bon, elle botte en touche. À ce moment-là, elle pourrait dire « Je vois que ça te fait souffrir, je ne peux pas t'accorder davantage. » Ça vous aiderait peut-être
pourrais,
à prendre une décision.
Je pourrais en faire autant, peut-être.
Oui, vous pourriez. Mais et vous peut, êtes pris par votre... Elle vous, le manque, vous êtes... En fait, cette femme, elle met le doigt sur quelque chose de profond, qui est le manque. Et peut-être qu'il faudrait chercher dans votre histoire à quoi ça renvoie. Ce manque...
Moi, je pourrais, de manière...
Malheureusement, on ne peut pas... On doit... arrêter cet échange, parce que c'est dommage, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on arrive à la fin de l'émission, Frédéric.
Oui.
Brigitte dit, c'est quand même, elle s'épanche avec vous, alors que c'est vous qui souffrez le plus. Et ça, elle veut pas l'entendre. Elle a le pouvoir dans la relation. Et il faudrait peut-être vous pencher, vous, sur ce manque, sur cette relation, avec quelqu'un, comme vous l'avez fait avec moi ce soir. pour vous aider à comprendre ce qui est en jeu pour vous. Pourquoi, même si ça vous fait souffrir, vous n'arrivez pas à prendre de la distance. Bon courage à vous, Frédéric.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour le temps que vous m'avez consacré.
J'aurais aimé consacrer davantage de temps, mais vous pourrez me rappeler. Au revoir, Frédéric. Merci. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Et puis, on sera de retour ce soir, mais à partir de 23h, parce qu'il y a du foot encore. C'est l'OM ce soir qui jouera.
RTL. Merci de passer la nuit à l'écoute de RTL.
Tout de suite, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Entrer dans l'Histoire, la quotidienne, la chronique matinale de Laurent Deutsch. Tous les jours à 7h20.
Bonne nuit et bonne écoute.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er mai, je vous vois venir, hein, vous allez nous parler de l'histoire de la fête du travail.
Ah oui. Eh ben pas du tout. Ah. Je vais pas vous parler de travail, je vais vous parler d'amour, Amandine. Ah. Car figurez-vous qu'avant d'être la fête du travail, le premier jour du joli mois de mai était dédié à l'amour. Ce miracle de la civilisation, comme disait Stendhal. Ah oui, attention, aujourd'hui, je vous préviens, je vais faire dans la poésie.
Vous dites donc que vous êtes en vers ce matin, mais depuis quand fêtait-on l'amour le 1er mai?
Mais depuis toujours, ah bon. Qui rime d'ailleurs avec amour. Car le 1er mai, c'est le retour des beaux jours, c'est le cœur du printemps. Oh. Une saison que l'on appelle la saison des amours, justement. Le printemps, c'est la floraison, c'est le soleil qui darde ses rayons, c'est la nature qui renaît, qui se couvre de couleurs et de senteurs, symbole de fécondité et promesse de bonheur et d'avenir. Pendant des siècles au 1er mai, la coutume était de se coiffer d'une couronne de fleurs ou d'en offrir une à la personne aimée.
Et la fleur star du 1er mai, c'est bien sûr le muguet.
Eh oui, cette fleur avec ses petites clochettes, si fraîche, si légère, en un mot, si printanière. Dans la Rome antique, on offrait déjà du muguet. Et en France, cette mode remonte à Charles IX, qui se serait fait offrir un brin de muguet à l'occasion d'un déplacement dans le Dauphiné, un 1er mai 1560. Le roi aurait décidé l'année suivante d'en offrir à son tour aux dames de la cour, et la tradition se serait généralisée. Mais à partir de la Révolution, on n'offrait plus du muguet, mais des églantines. On troque le blanc, couleur royale, pour le rouge, plus cocardier et plus révolutionnaire.
Alors, il va falloir nous expliquer comment on passe de la fête de l'amour à la fête du travail.
Hein. C'est pour le centenaire de la Révolution. En 1889, que le Congrès international socialiste de Paris va faire du 1er mai une journée de revendication des travailleurs. L'heure était en effet aux grandes luttes sociales. Et quand le 1er mai 1891 à Fourmies, dans le nord de la France, l'armée tire sur les ouvriers faisant plusieurs morts, l'églantine rouge épinglée pour le 1er mai prend alors le souvenir du sang versé. Et c'est finalement en 1941, sous le gouvernement de Vichy, qu'est instituée la fête du travail, le 1er mai. Et un jour, chômé et payé. Mais le maréchal Pétain remplacera l'églantine, jugée trop révolutionnaire, par le muguet,
ah oui.
La fleur à clochette, faisant ainsi son retour en grâce, non plus pour célébrer l'amour, mais le travail. Oui, la politique a tué l'amour, en tout cas, le 1er mai.
Prochain rendez-vous avec Laurent Deutsch, tout à l'heure à 7h20, ou dès maintenant, en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et dans un instant, on va rire ensemble avec l'œil de Philippe Cavrivière.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't.
on my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
La rediffusion.
Philippe, notre invité, Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité, est resté pour votre chronique.
Ma petite entreprise.
Alain Souchon.
Bon, oh, non.
Tu nous manques. Emprisonné à Fleury-Mérogis. Pour avoir trop regardé sous les jupes des filles. Pas très mytho, voilà. Bonjour Michel. Alors c'est formidable ce qui nous arrive ce matin. Je vous explique, c'est assez fou, parce que l'invité prévu était Michel Picon, et c'est vraiment Michel Picon qui est là au micro, parce que hier ils m'ont changé l'invité à la dernière minute, et voilà, sinon on comprend pas. Et
Non mais là c'était bien géré.
Voilà, là c'était, oui, c'est formidable, c'est le vrai Michel Picon, c'est même pas un sosie.
Oui, Michel Picon lui-même.
Alors, on peut survoler rapidement l'organigramme de l'U2P, il y a donc le président Michel Picon, le vice-président Gérard Pastis, le trésorier Stéphane Vieilleprune et le secrétaire adjoint Gilles Volvic, qui bizarrement a bien du mal à s'intégrer à cette belle équipe. Michel Picon, vous avez succédé à la tête de l'U2P au célèbre Dominique Métayer, tout le monde le connaît, qui avait lui-même pris la succession du célèbre Laurent Munero. Que des stars. Mais dis donc, c'est un syndicat ou c'est le Festival de Cannes? Voilà. Alors, pour les deux jeunes qui nous écoutent et qui se demandent, mais comment devient-on Michel Picon? Comment devient-on président de l'U2P? Oui. Bien, c'est simple. Il faut faire comme Michel, il faut faire une campagne, il faut mettre en place une campagne de pub avec un slogan et un artiste connu. On écoute.
La mer Picon, la mer Picon, c'est bon.
Qui se faisait des couilles en or en faisant de la pub.
Oui, vas-y,
alors, c'est pas hyper moderne, mais il a gagné, Michel. Seul le résultat compte. En cas de défaite, vous auriez été la mer Picon, bien sûr. Oui, c'est totalement nul, mais c'est le premier. Mais je ne devrais même pas être là. Vous avez ri à pire avec Alex Vizorek.
Ça, c'est sûr. Michel Picon a confié dans Les Échos que l'une de ses priorités serait de faire reconnaître l'U2P à sa juste valeur, notamment face au MEDEF.
Oui, et c'est vrai que c'est injuste, mais on connaît plus les dirigeants du MEDEF. Et vous allez voir que dès qu'on cite leur patronyme, on a l'impression d'entendre cette petite musique en fond. Ils ont des noms qui. Ça sonne patron.
Oui.
Geoffroy Rue de Bézieux, Ernest-Antoine Salière de Laborde, Laurence Parizeau, Pierre Cataz. Ce sont des célébrités. Pardon, mais si Challenge ou Les Échos devenaient des magazines people avec des paparazzi, c'est Geoffroy et Ernest-Antoine qu'on verrait à poil sur une plage privée des Caraïbes et pas vous, Michel, à la grande mode. Geoffroy Rue de Bézieux, Ernest-Antoine Salière de Laborde, avec des noms comme ça, je suis sûr que même leur zgeg, il a un petit pull sur les épaules, un polo Lacoste et des chaussures bateau sous les... Vous m'avez compris.
Oh bon non, alors nous sommes le 1er mai, la mobilisation des syndicats semble moins unitaire cette année après l'union sacrée contre la réforme des retraites l'an dernier.
Oui, à Paris, le cortège partira de la place de la République pour rejoindre Nation. 3 km de parcours où, selon l'unité de base du syndicat, 22 834 merguez. Et oui, je vous l'apprends peut-être, mais à la CGT, on mesure tout en merguez. Par exemple, Sophie Binet mesure 12 merguez.
C'est horrible.
Et la moustache de Philippe Martinez, c'est exactement mesurée à 2 merguez et demi. Mais vous le disiez, Yves, pas d'union syndicale cette année et des mots d'ordre plus dispersés comme non à l'austérité, pour une Europe plus protectrice, paix en Palestine, arrêtez de nous casser les couilles avec Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, ou vent Kangoo, 55 000 km pris à débattre, ça fait partie des revendications.
Absolument. Alors, autre sujet d'actualité, la surpopulation carcérale qui a atteint un nouveau sommet en France au 1er avril, avec 77 450 détenus pour seulement 61 570 places.
Très joli zouk. Paulet Serré qui évoquait l'univers carcéral et on ne le savait pas.
Non.
Philippe Laville nous en parlait, Jocelyne Béroir. Contrairement au meeting de Valérie Ayet et au concert de Vincent Niclot, les prisons sont pleines à craquer. Alors la densité carcérale globale s'établit à 125%. Et il n'y a pas encore Gérard Depardieu. Donc ça risque bientôt de grimper à 150, voire 175%. Ils ont prévu de faire rentrer Gérard dans sa cellule en le oignant avec du Saint-Doux et à l'aide de deux choses piégées.
Alors, on redonne le chiffre, car il est éloquent. 77 450 détenus pour seulement 61 570 places.
Et oui.
Oui. Et oui, cette surpopulation doit forcément créer, comment dire, des tensions.
Ça crée des tensions, voilà. C'est le mot Yves. Et quand on est serré et en tension... Oui. Il est assez logique, il y est régulièrement. Vous, regarde, Cyprien me voit arriver. Et oui, et il la voit arriver, bien sûr. Et quand on est serré en tension, eh bien on s'emboîte. Inévitablement, c'est une question de survie pour pas mourir écrasé. Eh bien, quand tu es dans une petite place, il y a plein de monde à un moment donné. Pour pas être écrabouillé, tu vois un trou, bah, tu rentres dedans. Alors, je comprends la partie réflexe. Hein. On entend encore régulièrement dans les PMU et sur CNews. Alors, c'est la même chose sans les cacahuètes. Et la licence 4, il y en a un qui a la licence 4 et pas l'autre.
Oh non.
Des phrases comme les prisonniers, oh là là, hé, c'est la belle vie, nourris, logés gratuitement. En plus, ils ont la téloche. Alors, rectification, ils sont mal logés, mal nourris gratuitement. Oui. Et la télé, c'est 14 euros par mois. Alors, ça fait cher pour entendre que tu es un privilégié alors que tu dors sur un matelas par terre. Tout le monde n'est pas en coloc avec Jonathan Daval, qui est une petite fée du logis et un cordon bleu. Bon défilé du 1er mai à tous.
Les patrons, c'est comme les cochons.
Excusez-les, c'est nos intermittents en Saint-Ouel qui en sont à la 4e 8-6.
Ça nous aurait
été. Merci Michel.
L'œil de Philippe Cabrévier. On vous retrouve bien entendu à 8h40 pour votre deuxième œil. Merci d'être resté avec nous, Michel.
Merci à vous.
Pour entendre tout ça. Bonne journée et bon travail à nos petites entreprises.
La mer Picon, c'est bon.
Vous avez bien fait de venir nous voir le 1er mai.
L'œil de Philippe Cabrivière, c'est tous les matins à 7h55 sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et sur notre application.
Et dans un instant, RTL vous propose d'écouter un épisode de Tout savoir sur, le podcast quotidien de la rédaction. À tout de suite.
Marie-Pierre Haddad, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tout savoir sur, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse ensemble à l'actualité d'un certain Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin n'a qu'un objectif, c'est réussir les Jeux Olympiques. Ça, c'est le sujet qui le préoccupe, le sujet sur lequel il est concentré, parce qu'il sait que la sécurité des Jeux repose sur ses épaules. Gérald Darmanin a misé sur les JO, pas sur le gouvernement, dont il sait qu'il n'y a que des coups à prendre.
L'analyse de l'éditorialiste politique de RTL, Alba Ventura, que vous venez d'entendre. Les JO ont aussi un poids dans l'avenir politique de Gérald Darmanin, puisque dans un entretien au Figaro, c'était en janvier dernier, le ministre de l'Intérieur déclarait, je le cite, « Après les Jeux Olympiques, un cycle au ministère de l'Intérieur sera atteint ». Mais que veut dire cette petite phrase ? Gérald Darmanin va-t-il quitter le gouvernement ? Et surtout, pourquoi faire ? Eh bien, j'en parle aujourd'hui en studio avec mes deux invités, Laurent Valdiguet et François Vignol. Bonjour.
Bonjour.
Laurent Valdiguet, vous êtes grand reporter et François Vignol, vous êtes responsable des enquêtes au JT de M6 et vous avez écrit ensemble le livre Gérald Darmanin, le baron noir du président et c'est sorti aux éditions Robert Laffont. Alors pour revenir sur la déclaration du ministre dans le Figaro, il y a un contexte assez particulier quand même quand il sort cette phrase, c'était en janvier au moment où Gabriel Attal arrive à Matignon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette déclaration d'après vous ?
Déjà à l'époque pour lui, c'est la gueule de bois hein, parce qu'il se rêvait Premier ministre. Il avait déjà raté le train avec Elisabeth Borne et là, eh bien, deuxième coup de massue. Et donc, comme tout bon politique, puisqu'il anticipe tout, Gérald Darmanin, il réfléchit à son avenir.
Hein, à la suite.
À la suite. Et son avenir, il est ouvert, puisque bien avant de savoir se raser, il rêvait déjà être président.
Laurent Valdiguet, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'en septembre prochain, eh ben, ce sera plus Gérald Darmanin, Beauvau ?
Ah bah, c'est difficile à dire aujourd'hui, d'autant plus qu'on ne sait pas comment la sécurité des Jeux va se dérouler. C'est un casse-tête absolu. Hein. En termes de sécurité, c'est l'événement le plus compliqué, le plus complexe qui n'ait jamais été organisé en France. Hein. C'est incomparable avec la sécurité des Jeux il y a un siècle. Et puis, de façon générale, il a une formule, Gérald Darmanin, il dit que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la mort subite. C'est-à-dire que vous pouvez vous y arriver le matin, vous descendez les escaliers de votre logement de service pour votre bureau, il peut se passer quelque chose à tout moment qui peut faire en sorte que vous, dans la soirée, vous quittez le ministère. Tellement c'est difficile, tellement c'est aléatoire et tellement tout peut arriver.
Justement, vous parlez des Jeux Olympiques, écoutez ce qu'en dit Gérald Darmanin.
La France, parce qu'elle porte des valeurs universelles, est particulièrement menacée, notamment, bien sûr, pendant ces événements extraordinaires que vont être les Jeux Olympiques. Nous avons un système de renseignement fort heureusement extrêmement efficace. La police française, les gendarmes, les préfets, les services d'enseignement seront prêts. La France a la chance d'avoir des forces de l'ordre absolument exceptionnelles.
Comment ça se passe en coulisses, l'organisation de ces JO pour Gérald Darmanin ? Comment il vit justement l'organisation de cet événement si particulier au niveau de la sécurité ? Il y a du stress, de la tension.
Il dit qu'ils seront prêts, il y a intérêt à ce qu'on soit prêts d'ailleurs. Donc, il fait du Darmanin, c'est-à-dire qu'il a une équipe de commando qui travaille dessus non-stop. Et puis, c'est vrai qu'il a changé son agenda, son emploi du temps, qui est vraiment omnibulé par ce grand rendez-vous. Laurent l'a dit, ça, c'est JO à lui aussi. D'autant que il y a eu un petit épisode, c'est son caillou hein, dans la chaussure. C'est cette fameuse finale de la Ligue des Champions, Stade de France, où ça s'est pas très très bien passé. Et il fait sa première faute de quart, finalement, dans la communication. Donc il a quand même ça en tête, et il sait qu'il est attendu par Emmanuel Macron et par toute une nation.
Gérald Darmanin, il est à Beauvau depuis juillet 2020. Avant ça, il était ministre du Budget. Et il a plusieurs facettes, on l'a évoqué déjà. Tout d'abord, celle évidemment de ministre de l'Intérieur.
Je suis favorable au couvre-feu qui touche les mineurs. Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents. Et les maires, qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet, comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans. On parle d'enfants de moins de 13 ans. Je les soutiens. Mais les maires qui le font sont des gens tout à fait raisonnables. J'ai entendu ce que disait le maire de Béziers. Moi, je veux dire que je soutiens ces initiatives, même si, évidemment, ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes.
Et Gérald Darmanin a aussi un côté très politique. J'ai sélectionné pour vous un extrait d'une passe d'armes avec le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Et quand il faut boxer, eh bien, il rend coup pour coup.
On avait bien compris le principe général de votre question, qui n'était ni finalement sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que Wandy Harold évoquait pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays. Oui, monsieur le député, ces propos seraient presque apprêtés à rire. s'il n'était pas si grave de la part d'un représentant de la nation.
Laurent Valdiguier, c'est quoi le bilan de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur?
Il y est depuis juillet 2020, hein, c'est un long mandat, hein, c'est un ministère extrêmement difficile. Il adore ça, hein, il l'a voulu, il l'avait demandé à deux reprises à Emmanuel Macron avant de l'avoir. Il a fallu qu'il montre un peu patte blanche, parce que le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, qui est d'ailleurs physiquement en face de l'Élysée, c'est un poste de confiance. Il a fallu qu'il décroche la confiance du président. Parce que c'est difficile, c'est 150 000 policiers, 100 000 gendarmes sous ses ordres, hein, c'est de gros effectifs, des effectifs qui grognent, c'est des manifs. Il l'a eu après la phase des Gilets jaunes où le régime a tremblé. Hein, c'est vrai qu'en quelques semaines, en 2018, il a fallu changer de A à Z, de fond en comble, toute la doctrine du maintien de l'ordre. Il a essuyé des vagues de manifestations, notamment les émeutes en banlieue de juillet dernier. Il y a des morts. C'est vrai qu'il a une grande longévité à ce poste. Hein. Il est, comme c'est un politique un peu à l'ancienne, Gérald Darmanin, il est plongé dedans depuis qu'il est tout petit. Il connaît à la fois toutes les ficelles. Il ne ménage pas sa peine. Son secret, c'est qu'il est sur le terrain. Il a fait beaucoup de visites de commissariat à l'improviste. Pendant longtemps, il déboulait à 2h du matin dans un commissariat en sonnant à la porte, en disant « Bonjour, je suis le ministre de l'Intérieur, comment ça se passe ?» Alors ça a fait trembler toute la machine policière, parce que rendez-vous compte qu'il y a deux ou trois endroits où c'était pas prévu que le ministre vienne en pleine nuit. Et
c'est ce côté spontané en fait qui est si particulier avec Gérald Darmanin.
Il a conquis le cœur des flics, puisqu'en réalité la première priorité d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'avoir un peu ses troupes avec lui. Et pour le coup, il les a d'autant plus que là, pour les Jeux Olympiques, il va leur demander de pas prendre de vacances. C'est-à-dire qu'il y a certains jours à Paris où il y aura 45 000. C'est quand même du jamais vu. Il y aura 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain dans la région parisienne. C'est-à-dire, c'est la totalité des forces. Pour vous donner un ordre de grandeur, un jour de grosse manifestation des Gilets jaunes, il y en a moins de 20 000. Donc là, c'est 100% du dispositif de sécurité en France qui va être déployé.
Et il a d'ailleurs annoncé des primes à destination des forces de l'ordre. Quand Gérald Darmanin était ministre du budget, on se souvient que c'est lui qui a mis en place le fameux prélèvement à la source. François Vignol, à Beauvau, vous retenez quoi de lui ? Il faut retenir un élément.
Cette énergie, cette volonté d'être sur le terrain, ce volontarisme, c'est un bébé Sarko, hein, Gérald Darmanin. Il a copié, imité, c'est son mentor. Et donc, sur la politique, c'est quand même entre ombre et lumière. Hein. Il y a une rénovation du ministère à l'intérieur qui était poussiéreux, qui était vieux avec cette politique, cette réforme de ce qu'on a appelé les poignées de porte, où il a fallu tout changer. On a amené des 5008 rutilantes parce que ils roulaient dans des vieilles caisses, hein, les policiers. Et puis, sa grande bataille, la mère des batailles, comme il le dit, qui est le trafic de drogue. 3 milliards, hein, en gros, en chiffre d'affaires, hein, 200 000 personnes, c'est
oui,
la ville de Rennes.
C'est les opérations.
C'est beaucoup plus compliqué, hein. C'est-à-dire que là, il vise le petit dealer, pas forcément les gros trafiquants. Et c'est vrai qu'en PJ, hein, qui était l'objet d'une grande réforme fondue dans la police, eh ben on grince un peu des dents.
Dans le bilan de Gérald Darmanin, il y a aussi l'adoption de la loi immigration qui a quand même coûté à sa majorité son unité et qui a déclenché un énorme psychodrame à l'Assemblée.
Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Je suis un acteur. Voilà, il y a des moments où il y a des difficultés. Chacun sait que quand on fait de la politique et lorsqu'on a envie de changer les choses pour les Français, on a envie bien évidemment de réussir. Parfois, il y a des difficultés. C'était le cas la semaine dernière. Moi, je l'ai dit sans aucun problème et avec beaucoup d'humilité. Mais aujourd'hui, on peut se satisfaire que c'est un texte voté très clairement, avec des dispositions extrêmement fortes.
Laurent Valdiguier, est-ce que son poids au sein du gouvernement, son poids politique, a été un peu affaibli après cet épisode ?
C'était pas une réussite, c'est vrai. Et puis à l'époque, il s'entendait moyennement avec Elisabeth Borne. C'était un peu tendu en coulisses. Mais il est toujours resté le... Il sait, Gérald Darmanin, qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc le jour où il l'ouvrira publiquement... Il partira. Il a trop d'expérience politique pour savoir que la moindre faute de quart, il faudra non seulement qu'il l'assume, qu'il la revendique et qu'il en tire les conséquences. C'est vrai qu'il est à la quadrature de tous les cercles. Il est très proche de Xavier Bertrand, il est très proche de Nicolas Sarkozy, il est fidèle d'Emmanuel Macron maintenant, et puis il a été intime avec Édouard Philippe. Donc c'est vrai que passé la séquence des Jeux Olympiques, s'ouvrira un peu une terre inconnue pour la politique française en général dans la perspective des prochaines présidentielles. Et Gérald Darmanin, bah, il a plusieurs cordes à son arc.
Oui, justement, parce qu'il y a un peu plus de 6 mois, on parlait de sa rentrée politique, de ses ambitions, de sa capacité ou non à pouvoir même remplacer, succéder Emmanuel Macron. Et il s'exprimait au-delà de son champ ministériel, il faisait beaucoup de politique et depuis, bah, plus rien. Il a complètement changé de stratégie, non ?
Oui, on l'a dit tout à l'heure.
Il est beaucoup plus sur le terrain, sur ses actions à lui, mais il ne fait plus des petites phrases politiques politiciennes un peu.
Bah parce que la séquence qui va aller jusque la fin des JO ne va être dévolue qu'à cela. Il sait que il peut être mis à la faute, mis à l'amende s'il s'éparpille sur d'autres sujets. Donc en gros, il fait des places nettes, hein, il se déplace et puis surtout, il travaille sur les JO. Il aura tout le loisir derrière de savoir ce qu'il veut faire. Et comme disait Talleyrand, et comme cette phrase qu'il reprend quand on l'avait interviewé pour le livre, il est à la disposition des événements. Il va s'adapter à ce qui se passera.
Quelle est sa relation avec Emmanuel Macron, Laurent Vadiguet? Votre livre s'appelle « Le baron noir du président ». Ça donne déjà un petit indice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ils se connaissaient pas tous les deux. Et puis d'ailleurs, Gérald Darmanin, quand Emmanuel Macron est élu, il n'avait même jamais mis les pieds à l'Élysée. C'est vous dire, c'était quand même un novice. Il changeait de camp. Il a changé de camp brutalement, hein. C'est une grosse prise de guerre pour Macron, ce fidèle de Nicolas Sarkozy en pleine campagne pour les législatives, qui était déjà en train de mener campagne pour les LR et qu'il a abandonné. Il a eu la réputation du traître chez ses amis, Gérald Darmanin, pendant longtemps. Et puis au fond, il a finalement gagné la confiance du président. Il le fait beaucoup rire, Emmanuel Macron. Gérald Darmanin, c'est un imitateur hors pair de Louis de Funès. Il a beaucoup d'humour pour ça. Donc il fait beaucoup rire le président, ça c'est sûr. Ils sont assez complices, disons. Au-delà de l'anecdote du rire, ils sont assez complices. Et puis c'est vrai que il ménage ses critiques. Il s'entendait moyennement avec Gabriel Attal, ça c'est sûr, pendant des années, mais vous l'avez pas entendu. C'est un fidèle d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Mais quand il dit, Gérald Darmanin, qu'un cycle va se terminer après les JO au ministère de l'Intérieur, est-ce que ça veut dire que Gérald Darmanin est vexé de ne pas avoir été nommé à Matignon? Comment ça se passe?
Oui,
C'est pour provoquer, c'est quoi le but?
La politique, c'est d'abord aussi surmonter toutes ces humiliations. Il faut avancer, on n'est jamais mort, comme on dit. Donc je pense que ça y est, hein, il a fait son débrief intérieur en se disant, on passe à la prochaine séquence. La prochaine séquence, c'est la rentrée prochaine. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être à nouveau maire de Tourcoing? Il l'a déjà fait, j'y crois pas trop. Est-ce que, comme il nous le disait à l'époque, j'ai la tentation de Sienne, je vais ouvrir un bistrot à vin là-bas?
J'allais vous demander, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il a envie?
Moi, je crois que c'est un mythe. C'est un mythe, hein. C'est l'un des derniers politiques, tout à l'heure Laurent le disait, il vit avec ça, il le veut vraiment. Finalement, ils sont pas tant que ça à vouloir obtenir le dernier Graal, hein. Il y a eu Chirac, certainement Macron, peut-être pas Juppé, hein. Et lui, il ne vit que pour ça. Donc, on a du mal à penser qu'il va prendre la poudre d'escampette pour vendre du Chianti à Sienne.
Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez très bien son entourage, qu'il pourrait, par exemple, pourquoi pas, fonder un parti, commencer à activer un peu des réseaux ou pas? Est-ce que ça correspond un peu au style Darmanin?
Mais là, tout le monde est dans la situation de Christophe Colomb prenant le large, après les JO, justement, et dans la perspective des prochaines présidentielles. Le jeu est beaucoup trop ouvert, il y a beaucoup trop d'inconnus dans l'équation aujourd'hui pour savoir ce que fera exactement et dans quelle écurie se placera Gérald Darmanin, ou si au final il jouera sa carte personnelle dès la prochaine présidentielle. C'est quand même assez peu probable aujourd'hui, à date, comme disaient les politiques. C'est la grande expression, c'est de dire à date. Aujourd'hui, y a trop d'inconnus.
Et est-ce que vous pensez que lui a déjà son plan fixé en tête et qu'il est juste très discret dessus, ou que, comme vous le disiez tout à l'heure, évidemment, il va s'adapter aux événements?
C'est jamais ce qu'on a prévu. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est très très méticuleux, qui prépare tout. Quand on l'avait vu à l'époque, il était en train d'écrire des lettres de vœux pour ses administrés. Il y en avait 9777. On me dit, mais combien de temps ça vous prend? 77 heures avec le crayon plume, l'encre qui sont un tout petit peu personnalisée. Donc, c'est un quelqu'un qui anticipe énormément, mais il sait aussi que il y a des choses qui changent et qu'il va falloir s'adapter. Nicolas Sarkozy lui a appris quelque chose, c'est que quand on joue au casino, eh bien il faut prendre des risques. Et souvent, eh bien il renverse la table et il essaye de faire tapis. Est-ce que ce sera le cas là? On le saura ces prochains mois.
Merci beaucoup Laurent Vadiguet, merci beaucoup François Vignolle. Après votre livre sur Gérald Darmanin, le baron noir du président,